Vous écoutez RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Bonsoir Karim Vrer.
Bonsoir Marc-Olivier Frogel.
Des bars HLM d'Orléans, aux plus belles plages du monde. Karim, vous publiez donc Zarma Sunset chez Michel Lafon, une autobiographie où vous racontez comment vous, le petit gars des cités, vous êtes devenu surfeur professionnel, adepte des très grosses vagues hein, de 10, 15, 20 mètres, grâce à la lecture d'un magazine presque par hasard dans une médiathèque. Vous allez raconter cette histoire qui est la vôtre incroyable dans un instant, mais pour commencer, aujourd'hui, vous aimeriez qu'un jeune tombe sur votre livre et se dise « Mon horizon ne se limite pas à mon quartier », c'est ça ?
C'est le but en fait de ce livre, c'est que moi je n'existe plus en fait à partir du moment où j'ai fait ce livre. Je veux ne plus exister, je veux juste que le message existe et qu'il soit diffusé au plus grand nombre et que le moindre jeune, même pas jeune, puisse se dire que c'est possible dans la vie. Quoi. Il suffit de le vouloir et qu'il se passe des belles choses en France malgré la période difficile dans laquelle on vit. J'en suis la preuve vivante et on peut réussir à tout dans la vie. Ouais.
Alors votre parcours, il va vous conduire, on l'a dit, parmi les meilleurs surfeurs du monde. Mais dans le livre, on comprend que ce milieu ne vous a pas totalement accepté. D'ailleurs, depuis sa sortie sur Internet, on trouve plusieurs messages qui expliquent que vous êtes un imposteur. Comment vous le vivez ? D'un coup, vous êtes contesté parce que finalement, on vous a jamais admis.
Bah, en fait, je le vis très bien parce que je l'ai toujours vécu comme ça. Moi, le milieu du surf ne m'a jamais accepté. Et ce que j'ai eu dans le surf, je l'ai pris moi-même, on me l'a pas donné. Maintenant, ce qui se dit sur Internet, c'est quelques personnes anonymes. C'est pas les grands noms du surf ou les grandes marques du surf qui se sont exprimées. Et en plus de ça, j'ai reçu le soutien de certaines légendes du surf qui m'ont apporté leur soutien, et notamment Gareth McNamara, l'Hawaïen, la légende hawaïenne qui a le record du monde de la plus grosse vague surfée, qui m'a apporté son soutien. Donc c'est pas, je veux dire, c'était prévisible.
Alors Karim, on va raconter votre histoire. Vous êtes d'origine marocaine, vous avez grandi donc dans une cité d'Orléans, vous avez trois frères et sœurs, et on va dire qu'au début, l'école, c'était pas trop votre truc.
Bah, c'était même pas du tout mon truc. Je n'y comprenais rien et je crois que l'école ne me comprenait pas du tout.
Et vous viviez dans une famille modeste, mais à qui ne manquait rien. Mais en 96, il y a une grosse rupture dans votre vie. Votre papa meurt dans un accident de voiture. Et là, pour le coup, vous découvrez la misère.
Bah, à partir de là, ma mère se retrouve à devoir travailler, ce qu'elle n'a jamais fait, puisque c'est mon père qui nous entretenait. Ma mère était mère au foyer. Et à partir de là, oui, elle a dû cumuler les emplois. Mais malgré tout, ça ne suffisait pas. Et on a basculé dans la précarité. Mais la précarité la plus totale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. En tout cas, pas grand-chose pour elle à la fin, quoi, pour notre mère. Quoi.
J'ai quatre enfants, elle vous dit, mais je n'ai pas huit bras ni quatre pères. Dieu, à partir de maintenant, l'avenir est dans vos mains, c'est ce qu'elle vous dit. Et vous, finalement, en même temps, vous alliez à l'école et petit à petit, vous tombiez dans la délinquance, dans le trafic même.
Bah, c'est la facilité, c'est-à-dire que la rue nous tend ses bras, à l'inverse d'autres institutions. Et quand elle nous tend ses bras, elle nous fait lorgner la facilité de l'argent, mais forcément dans l'illégalité. Quoi.
Illégalité, hein, à vos 18 ans, par exemple, vous êtes pris en train de cambrioler une maison, vous écopez de 6 mois de prison avec sursis. Et là, ça a été comme une forme de déclic. Vous vous dites, ça suffit les conneries ?
Je pense que de toute façon, j'avais toujours cette petite retenue derrière ma tête. Mais c'est vrai que ça a été un déclic, le fait de m'être fait attraper. Et certains, justement, par la suite, essayent de réfléchir à d'autres solutions pour justement ne plus se faire attraper. Puis il y en a d'autres, ils ont le déclic pour arrêter. Moi, ça a été le cas.
Et à l'été 99, vous allez donc découvrir ce qui va changer votre vie, le surf. L'histoire est absolument incroyable. Un matin, votre mère vous force à accompagner votre petite sœur à la médiathèque. Vous traînez des pieds. En attendant, vous tombez sur Surf Magazine. Et là, vous ouvrez ses pages et vous dites « Mais cette vie, elle est pour moi ».
À ce moment-là, c'est comme si j'avais un bouton à l'intérieur de moi sur lequel on avait appuyé. Et je savais que j'étais surfeur, mais il n'y a que moi qui le savais. Quoi.
Comme vous le dites, il n'y a que moi qui le sais, mais vous êtes sûr que vous voulez faire ça et vous vous rendez par exemple à l'office départemental de la jeunesse et des sports en périphérie d'Orléans pour vous renseigner sur la filière menant au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, puisqu'il faut commencer par ça. Vous voulez être sauveteur, mais votre soeur elle vous dit mais tu sais même pas nager.
Exactement. En fait, c'est venu de l'idée d'un copain qui se foutait de moi au quartier, puisque à l'époque la série phare était Alerte à Malibu. Quand j'explique à mes copains au quartier que je veux devenir surfeur, ils me disent mais tu t'es pris pour Alerte à Malibu. Et en fait, c'était la solution, devenir sauveteur en mer. Et donc il fallait passer par justement ce brevet national de sécurité de sauvetage aquatique pour devenir sauveteur en mer. Mais je ne sais pas nager.
Et là, l'histoire commence là. Cette année-là, vous réussissez votre bac, le diplôme de secouriste, le permis de conduire. Et vous débarquez alors à Biarritz et vous êtes affecté à la grande plage. Et là, vous découvrez, j'imagine, un autre monde, Karim.
Bah, je passe d'un univers horizontal avec les barres HLM à un univers vertical et l'horizon de la mer en face de moi. Donc, c'est le jour et la nuit, c'est magnifique. Et je me rends compte tout de suite que c'est la vie que je veux mener et que c'est la vie pour laquelle je suis fait, quoi.
Ça, c'est l'été, mais il y a l'automne et vous restez là-bas, près d'Anglette. Et là, vous avez presque une vie, j'allais dire, de SDF. Vous vivez dans votre Renault 5 près d'Anglette, vous vous nourrissez de boîtes de thon à la catalane. Et c'est là où vous dites, je vais affronter les vagues. Mais vous ne connaissez rien, vous êtes un surfeur de pacotille.
De pacotille, je ne suis même pas un surfeur d'ailleurs. Je deviens clochard, je vis dans ma voiture. J'essaye tant bien que mal d'apprendre à surfer, sauf que le surf est un sport autodidacte. Il faut regarder les autres faire pour pouvoir refaire la même chose à l'eau. Sauf que moi, ayant honte et étant rejeté par la communauté de surfeurs local, je surfe dans des endroits un peu plus dangereux, un peu plus reculés. Donc ça a été un apprentissage très très compliqué et très long, quoi.
Et à quel moment les choses basculent pour vous? Ça a commencé à sourire.
En fait, ça a commencé à sourire sur Hawaï quand j'ai rencontré le nouveau patron de Quicksilver à l'époque, l'ancien PDG de L'Oréal, Bernard Mariette, qui a aimé ma personnalité, mon charisme et qui a voulu me mettre le pied à l'étrier, qui a demandé à ce que Quicksilver me sponsorise.
Et là, ça a vraiment démarré pour vous. Vous avez eu cette carrière de surfeur professionnel. Ouais. Ça a duré combien de temps, ces belles années?
Ça a duré 5 ans. Jusqu'à l'arrivée de la crise en 2007, la crise financière qui a fait que les marques de surf ont commencé à décliner financièrement et du coup ils ont dégraissé leur effectif de riders dans tous les teams.
Et vous êtes rentré sur la côte basque où vous vivez, vous êtes marié, vous avez rencontré l'amour avec Marielle, basquaise, vous aviez mis de l'argent de côté et vous en avez fait profiter votre famille en fait.
Exactement, sachant que il est arrivé une discipline entre temps qui m'a fait rebondir dans ma carrière de surfeur pro, qui était le surf tracté créé par Laird Hamilton. Et ça a redéclenché des sponsors et ça a redéclenché l'engouement pour le sponsoring auprès des riders et c'est ce qui m'a redonné un second souffle, c'est ce qui a donné un second souffle à ma carrière. Donc voilà, je vis un rêve tous les jours en étant là où je suis, en faisant ce que je fais.
Un rêve qui va peut-être être porté à l'écran, puisque dans le livre, vous racontez avoir rencontré Danny Boone. Et c'est vrai que votre histoire, elle pourrait devenir un film.
Oui, c'est même plus que concret, puisque la prépa du film a démarré et le tournage commencerait aux alentours du 15 septembre. Et oui, c'est grâce à l'impulsion qu'a donné Danny Boone, c'est-à-dire qu'il a financé et amorcé le scénario de ce film après l'avoir rencontré. Donc merci Danny.
Incroyable, votre histoire est dans un livre, Zarmat Sunset, chez Michel Lafon. Merci Karim Brer.
Merci beaucoup Marc-Olivier Fogel.